Bonsoir et bienvenue à chacune et à chacun, que vous soyez en présentiel ou en distanciel, bienvenue à cette soirée qui ouvre pour cette année universitaire les activités de la chaire de théologie œcuménique du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. Le désir de l'unité des chrétiens doit marquer tous les champs de la théologie. L'existence de cette chaire de théologie œcuménique voudrait attirer l'attention sur cet enjeu fondamental des études théologiques. Et c'est un thème d'actualité que nous avons choisi pour ce soir, celui de la synodalité, dont la problématique vous sera présentée par Michel Fédoux dans quelques instants. Mais tout d'abord, nous tenons à vous remercier de votre présence, remercier particulièrement les institutions universitaires présentes ce soir, en particulier l'Institut supérieur d'études œcuméniques, l'ICEO de l'Institut catholique de Paris, l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, l'Institut protestant de théologie de Paris, ou encore la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Nous tenons aussi à remercier chaleureusement les trois secrétaires du Conseil d'Église chrétienne en France, le Père Miguel Desjardins de la Conférence des évêques de France, directeur du service national pour l'unité des chrétiens, la pasteur Anne-Laure Danet, responsable du service des relations entre les églises chrétiennes au sein de la Fédération protestante de France, et qui est d'ailleurs venue avec des membres de sa commission œcuménique, donc bienvenue. Le père Ivan Karageorgiev, orthodoxe de l'Institut Saint-Serge. Et en les citant, je voudrais aussi souhaiter une bienvenue particulière aux délégués régionaux ou diocésains à l'œcuménisme, dont j'ai reconnu un certain nombre, en particulier en ligne. Et puis bien sûr, nous aimerions souhaiter la bienvenue aux mouvements, comme les Focolari, ou bien la Maison de l'Unité, ou aux communautés, comme la à vocation œcuménique, comme la Communauté du Chemin Neuf, et je dis la bienvenue à son supérieur général, le père François Michon. Bienvenue aussi aux paroissiens proches du Centre Sèvres, comme la paroisse de Pantemont, de l'Église protestante unie de France. Peut-être l'Église Saint-Ignace aussi. Et une bienvenue particulière aussi à la présidente de l'Église protestante unie de France, la pasteur Emmanuelle Sebold. Après ces mots de bienvenue, bienvenue bien sûr aux intervenants de ce soir. Et il me revient de présenter le premier intervenant de ce soir. André Birmelet. Présenter André Birmelet, c'est dire qu'il est pasteur luthérien, plus précisément de l'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine, professeur de théologie systématique et doyen émérite de la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Mais c'est dire aussi beaucoup plus que cela, et je vous le dirai dans quelques instants, après qu'on vous ait présenté aussi le thème de cette soirée, le thème dévolu à cette soirée, puisque chaque année, nous choisissons un thème qui nous paraît en lien avec l'actualité, l'actualité de nos églises ou l'actualité du monde. Et ce thème vous est présenté ce soir par Michel Fédoux, enseignant ici au Centre Sèvres, que vous connaissez tous bien, et que l'on félicite encore pour le récent prix qu'il vient de recevoir, le prix Ratzinger.
Bonsoir à tous, à toutes. Anne-Cathy Graber et moi-même avons donc souhaité que notre soirée publique porte sur la question de la synodalité. La synodalité, enjeu pour la communion des Églises. Ce choix que nous avons fait s'explique par deux raisons majeures. D'abord, bien sûr, l'actualité de la question dans l'Église catholique. À vrai dire, Vatican II n'employait le mot synode que dans un sens relativement restreint. Vatican II évoque le synode des évêques pour l'Église universelle et les synodes des Églises orientales, ce qui est déjà considérable. Mais Vatican II ne parlait pas encore de la synodalité au sens d'une dimension qui devrait marquer plus largement toutes les relations au sein de l'Église. Or, cette étape est désormais franchie. Non seulement la synodalité a été davantage mise en œuvre dans les décennies qui ont suivi le Concile Vatican II, même si sa pratique a rencontré des difficultés. Mais surtout, l'Église catholique, à l'initiative du pape François, s'est engagé fortement pour une synodalité à tous les niveaux de la vie ecclésiale. L'Église catholique est ainsi entrée dans une démarche synodale qui connaîtra un moment majeur, une phase majeure, dans un an, à l'occasion du synode sur la synodalité. La seconde raison de notre choix, une seconde raison qui est plus spécifique, plus propre à notre chaire de théologie œcuménique, c'est que nous avons une vive conscience du fait que la question de la synodalité est une question essentielle pour chacune des églises chrétiennes. Nous sommes conscients de l'importance que l'orthodoxie, l'Église orthodoxe, a toujours donnée à la synodalité. Nous sommes conscients aussi de son importance, l'importance de la synodalité dans la pratique des églises de la Réforme. Et nous pensons que la redécouverte de la synodalité dans l'Église catholique est vraiment un événement pour les églises chrétiennes en leur ensemble. Nous pressentons qu'il y a là un terrain de rencontre, un terrain heureux d'échange, sans doute aussi un terrain de débat, mais en tout cas un terrain qui peut être, espérons-le, le lieu d'avancées œcuméniques à l'avenir. Nous avons souhaité entendre ce soir la voix de trois intervenants. La voix d'un théologien protestant de tradition luthérienne, M. André Birmelet. La voix d'un théologien catholique, Père Étienne Grieux. Enfin, une voix représentant l'Église orthodoxe. Cette voix devait être celle de M. Michel Stavroux, professeur à l'Institut Saint-Serge, mais M. Michel Stavroux nous a écrit ce matin pour nous dire qu'il avait malheureusement le Covid et qu'à son grand regret, il ne pouvait pas intervenir ce soir, pas même par visioconférence. Et il nous a chargé vraiment de l'excuser auprès de vous. Nous avons cependant cherché une alternative pour que la voix orthodoxe soit représentée. Nous y tenions beaucoup. Et je suis heureux de vous dire que nous aurons, au moins par visioconférence, si tout va bien, la participation de Madame Julia Knight-Vidovic, qui est théologienne orthodoxe de l'Institut Saint-Serge.
Donc c'est surtout que ça marche pas très bien leur vidéo et j'arrive pas à le mettre dans mes...
Je pense que les personnes qui sont en distanciel, qu'elles viennent bien à fermer leur micro, en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, donc ces trois théologiens ou théologiennes nous diront ce qu'il en est de la synodalité dans leurs traditions respectives. Ils diront aussi sans doute l'une ou l'autre question qu'ils posent aux autres églises sur ce problème de la synodalité. Ils seront présentés au fur et à mesure. Et c'est Anne-Cathy Graber qui va, pour commencer, présenter le pasteur André Birmelet et introduire son intervention.
Alors, comme je vous le disais, on ne présente presque plus André Birmelet. On sait qu'il est pasteur luthérien, plus précisément de l'Union des Églises protestantes Alsace-Lorraine, professeur de théologie systématique et doyen émérite de la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Mais présenter André Birmelet, c'est surtout dire qu'il est un chrétien qui a la passion de la grâce et de l'annonce du salut. Que signifie être sauvé aujourd'hui? De quoi est-on sauvé? Que signifie, dans le langage d'aujourd'hui, être gracié, être justifié? Alors nous retrouvons ces questions dans plusieurs de ses ouvrages, notamment « L'horizon de la grâce » ou encore « Le salut en Jésus-Christ dans les dialogues œcuméniques ». Dialogues œcuméniques. En effet, André Birmelet a aussi la passion depuis des décennies du dialogue œcuménique. Son exigence, sa nouveauté, mais aussi sa fécondité. Ainsi a-t-il été une des chevilles ouvrières de la rédaction de la Déclaration commune sur la justification, signée en 1999, entre l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale. Et d'autres aussi, dialogues œcuméniques. Cette quête de l'unité de l'Église du Christ, André Birmelet l'exprime dans un autre ouvrage, « La communion ecclésiale. Progrès œcuménique et enjeux méthodologiques. Aussi, André Mirmelet, nous te remercions vraiment, chaleureusement, d'avoir accepté notre invitation ce soir pour nous présenter ce que signifie la synodalité dans les églises de la Réforme. Quelles en sont les pratiques et quelles pourraient être les interpellations, les questions, voire les défis œcuméniques à entendre concernant la pratique de la synodalité à l'écoute de celle des églises de la Réforme. Donc encore merci d'être là, et donc à toi la parole.
Voilà, merci beaucoup pour tes paroles qui sont, voilà, qui relèvent du salut par les œuvres. Donc, je voudrais simplement vous dire que je suis ravi de travailler avec vous à Sèvres, comme je le fais depuis un certain temps. Parlons donc de la synodalité, qui est un marqueur majeur des églises de la Réforme du XVIe siècle. Elle est la manière dont s'y exerce l'autorité, c'est le lieu de l'épiscopat, de l'épiscopé dans son sens originel, donc de la direction de l'Église. Elle advient de manière collégiale, communautaire, personnelle. Elle est portée par des convictions théologiques fondamentales. Je vous en citerai deux tout à l'heure, mais je commence par un tout petit flash historique. Je crois que vous ne pouvez comprendre l'émergence de la synodalité dans le monde de la Réforme qu'en tenant compte de l'histoire du début du XVIe siècle. Moi, je dis toujours, d'accord, on va bien dire que c'est un moment tout à fait particulier au niveau ecclésial, mais c'est surtout un mouvement tout à fait particulier au niveau civilisationnel. C'est l'irruption de la Renaissance, et la Réforme n'est qu'une des dimensions, que la dimension religieuse de cette irruption. Vous penserez de Christophe Colomb à Leonardo da Vinci, en passant par Rabelais, Copernic et encore beaucoup, beaucoup d'autres. Il y a là, dans 50 années, un mouvement invraisemblablement fort, dont il y a aussi le mouvement qui touche la Réforme. Ceci se passe dans un contexte politique particulier. Et le contexte particulier vaut surtout pour la Suisse et pour l'Allemagne dans un premier temps. La Suisse a déjà une structure cantonale. Et la Réforme de l'Église s'inscrit automatiquement dans un contexte où les instances civiles cantonales ont évidemment leur mot à dire dans le fonctionnement de l'Église. Vous avez dès le XVIe siècle énormément de commissions mixtes qui dirigent l'Église, à la fois les civils, les magistrats de la ville et les responsables ecclésiastiques. La même chose intervient en Allemagne. Le contexte est un tout petit peu différent. Vous avez affaire à un empereur, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui est en même temps roi d'Espagne. Il réside généralement en Espagne, ne peut pas passer par la France, vu les ennuis, que ce soit François Ier ou ses prédécesseurs. Donc il passe par l'Italie pour rejoindre l'Allemagne et pour maintenir une certaine unité de son empire. Il mutualise, dès le début du XVIe siècle, il mutualise les lieux d'autorité et il confère aux ducs et aux princes allemands, ainsi qu'aux villes libres allemandes, le soin de gérer les questions religieuses. Les magistrats, les responsables politiques sont d'entrée de jeu pour des raisons politiques impliquées dans la gestion de l'Église, d'autant plus qu'un des griefs majeurs de la Réforme sera cette collusion entre royauté et épiscopat, et c'est cette situation-là qui va tout simplement être aboli dans le monde, en premier lieu, germanique. Et l'empereur d'Espagne sera à la diète d'Augsbourg en 1530, et les ducs lui présenteront l'enseignement qui est à présent celui professé sur leur territoire. Ce sera la confession d'Augsbourg. Ce sont les ducs qui présentent ça à l'empereur en demandant à l'empereur simplement de permettre qu'il en soit ainsi. Et l'empereur ne l'acceptera pas dans un sens formel, mais il ne s'y opposera pas. En ce sens, le gouvernement civil est automatiquement partie prenante du pouvoir ecclésial. Je crois que c'est important que ce soit dit au début pour avoir tout simplement un contexte historique un peu plus ouvert que ce qu'on dit un peu trop rapidement d'une manière générale. En outre, vous avez un courant fortement conciliariste dans les églises de la Réforme. Conciliarisme, ça veut dire qu'au Moyen-Âge, vous avez deux courants. Il y a un courant qui place le pape au-dessus du concile et un courant qui place le concile au-dessus du pape. C'est une querelle qui dure plusieurs siècles et finalement elle est tranchée au profit du pouvoir premier du pape. Les réformateurs, que ce soit Luther, Zwingli, voulaient à tout prix revenir à une situation où le concile, présidé d'ailleurs par l'empereur, déciderait et non le pape. Voilà la situation dans ces deux pays. Il en sera un tout petit peu différemment en France, où tout simplement vous n'avez pas cette collusion entre la réforme cette collaboration avec les magistrats civils, les magistrats civils s'opposant à la réforme, ou disons le pouvoir politique s'opposant à la réforme. Et le premier synode proprement dit, qui ressemble un peu à ce qu'on connaîtra par la suite, ce sera le synode de 1559 à Paris, où vous avez, alors ce ne sont pas les magistrats de la ville, mais vous avez effectivement des laïcs, des gens engagés dans la réforme qui participeront à ce premier synode. Et c'est ce premier synode qui adoptera ce qu'on appelle la confession de foi de La Rochelle, la confession qui est la référence ultérieure pour le monde réformé français. D'ailleurs, on appelle aussi la Gallicana, c'est d'ailleurs Calvin qui en était l'auteur. Voilà le contexte. Les deux choix théologiques fondamentaux qui s'inscrivent dans ce contexte et qui profitent de ce contexte pour se développer. La première conviction fondamentale, c'est la compréhension de l'Église. Je vais vous citer Calvin. Qu'est-ce que l'Église ? Partout où nous voyons la parole de Dieu être purement prêchée, écoutée, les sacrements administrés selon l'institution du Christ, il ne faut pas douter qu'il y ait Église. C'est à peu près les mêmes mots que ce que vous trouvez dans la confession d'Augsbourg. L'Église est la communauté des croyants où la parole et les sacrements sont correctement prêchés et célébrés. En d'autres termes, l'Église est une donnée majeure du plan de Dieu. Elle est instituée par Dieu qui lui donne parole et sacrements. Ou pour reprendre l'expression de Cyprien, elle est la mère des croyants, une expression que vous trouvez tant chez Calvin qui carrément donne à tout un chapitre ce titre. Vous la trouvez aussi dans le grand catéchisme de Luther. Une décision extrêmement importante, l'Église, ce n'est pas une affaire d'institution, ce n'est pas non plus une affaire de ministre. L'Église, c'est la communion des croyants célébrant en vérité parole et sacrement. Cette Église est nécessairement visible, et cette Église visible n'est pas opposée à une Église invisible. Calvin dira à maintes reprises, ce n'est que par cette Église visible en ce temps que nous avons accès à l'Église invisible de Dieu qui échappe, qui nous échappera toujours, mais qui s'incarne ici, aujourd'hui, maintenant, là où nous sommes. Et pour que cette Église puisse s'incarner, il lui faut une structure institutionnelle visible. il faut qu'elle soit organisée en ce temps pour que sa pérennité soit assurée. Il faut qu'elle corrige ses erreurs, il faut qu'elle soit maintenue dans la fidélité de la foi, et c'est à cette fin que les assemblées synodales sont essentielles. Ce sont des structures avant-dernières, elles ne relèvent pas de l'être de l'Église, la communion des croyants célébrant en vérité, parole et sacrement, mais on ne saurait s'en passer parce que cette Église s'inscrit dans ce temps. Les décisions de ces assemblées instituées pour le bien-être de l'Église peuvent être fausses, le prochain synode les corrigera, et les modalités et les fonctionnements des synodes peuvent varier d'une époque à l'autre, d'un lieu à l'autre. Et il n'y a aucune raison que tout le monde soit organisé de la même manière. On a des synodes régionaux qui, tout simplement, s'occupent d'une église dans certains territoires, voire plus tard d'un pays tout entier. Il n'y a pas à douter que ces formes ecclésiales soient une église véritable, même si aucune forme ecclésiale ne peut prétendre être la seule église qui vaut pour tous les lieux et pour tous les temps. Le second choix théologique, donc cette notion d'église que je viens de vous rappeler, le second choix théologique, c'est le sacerdoce universel de tous les baptisés. Alors le ministère de l'Église est constitutif pour l'Église. Le ministère est donné, institué par Dieu. Sa tâche est d'accomplir la mission de Dieu en ce monde, célébrant parole et sacrement, mais par-delà, témoignant à ce monde, en ce monde, un travail missionnaire, un travail de service du prochain. Il n'y a pas d'Église sans ce ministère. Mais vous avez bien compris, je n'ai pas parlé en évoquant ce ministère d'un ministère particulier. Les formes que prend ce ministère unique de l'Église dépendent là aussi des temps et des lieux. Le ministère est confié à toute la communauté dans son ensemble. Alors, il s'exerce d'une manière particulière pour la célébration de la parole et des sacrements. Et là, vous avez le presbytre, vous avez l'évêque, vous avez d'ailleurs aussi le diacre, la fameuse triple forme du ministère héritée de l'Antiquité ou des premiers siècles, qui n'a jamais été remise en question dans le monde de la Réforme. Simplement, on ne vous dira jamais que c'est de droit divin, mais on vous dira que cette triple structure est d'institution humaine. Iure humano. Le ministère de la parole et des sacrements est plus nécessaire à l'Église que d'autres ministères, mais ce ministère ne s'inscrit que dans le ministère global de toute l'Église. Et en ce sens, tous les ministres ont une même capacité de par leur baptême, mais il y en a certains qu'on formera davantage et auxquels on donnera un mandat particulier. Le mandat de célébrer la parole et les sacrements, le mandat de conduire une communauté, c'est-à-dire un mandat pastoral. Et là, vous voyez bien la différence et une des difficultés du mouvement œcuménique contemporain. Il n'y a pas de différence dans le sens où les uns auraient une capacité, les autres ne l'auraient pas, en l'occurrence célébrer une Eucharistie. Tous ont la même capacité. Mais tous n'ont pas le même mandat. Tout le monde ne fait pas n'importe quoi. Vous ne pouvez faire que ce dont l'Église vous mandate. Et ainsi, certains seront formés pour être des pasteurs et seront mandatés pour cela. Et c'est ces pasteurs-là qui seront d'ailleurs nommés, en partie par les synodes. Et la participation au synode ne saurait être limitée aux seuls ministres ordonnés. Et on maintient en divers lieux des assemblées de pasteurs, certes, mais les assemblées de pasteurs n'ont jamais le dernier mot. Et vous avez en face de ça tout un ensemble de laïcs, selon le cas, Dans le monde réformé, c'est à peu près paritaire, pasteur laïc. Dans le monde luthérien, il y a beaucoup plus de laïcs que de pasteurs dans les synodes, souvent même plus de 2/3. Voilà les enjeux théologiques. Je passe aux tâches du synode et je vais vous en énumérer brièvement 4. Les 4 tâches du synode, c'est pour simplifier les choses. Première chose, les Écritures saintes sont évidemment la référence dont on ne saurait se passer. La langue vernaculaire, donc l'impression de la Bible en langue vernaculaire, permet l'accès à l'Écriture, tout ça vous le savez. Et à une époque où l'interprétation littéraliste est courante, on se rend déjà compte qu'il faut interpréter les textes de l'Écriture en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Et vous aurez dès la réforme le fameux critère qui sera le suivant. Le texte de l'Écriture est à interpréter à la lumière de l'événement Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous. Et c'est à cette lumière-là que le texte devient évangile. Qui est le garant de l'interprétation? Parce que ce ne sera pas un évêque, ce ne sera pas un pape, ce sera un synode. Et ce sera la première tâche du synode, de veiller à l'interprétation de l'Écriture, tout en sachant que l'interprétation qu'on peut proposer aujourd'hui devra peut-être être revue demain, à une autre époque, tout comme elle devra être revue en un autre lieu. C'est la tâche des synodes, et à cette fin, ils se dotent de ce qu'on appelle des confessions de foi, c'est-à-dire des textes brefs qui sont comme des résumés de l'Écriture sainte et qui servent de repère pour l'interprétation. Et ce sera, mon Église s'appelle jusqu'à ce jour l'Église de la Confession d'Augsbourg en Alsace et en Lorraine. Eh ben, c'est le texte de référence, c'est la Confession d'Augsbourg, et c'est à la lumière qui est lui-même gagnée, entre guillemets, cette confession est elle-même gagnée grâce à l'interprétation de l'Écriture sainte. Et ce sera la référence pour le travail de l'Église, pareil pour la Confession de foi de La Rochelle ou pour d'autres textes, vu que lors de l'ordination des pasteurs, nous ne les engagerons plus sur la base de l'obéissance à l'évêque, mais on les engagera en leur demandant de se conformer aux confessions de foi retenues par les synodes. Deuxième tâche importante du synode concerne la vie cultuelle et catéchétique de l'Église. Vu l'importance de la célébration de la parole et des sacrements, il est important d'avoir partout un ordre du culte, une liturgie reconnue, de préférence même une liturgie qui est la même d'une paroisse à l'autre, et pour l'ensemble des célébrations ecclésiales, le synode veille à une certaine uniformité sur l'ensemble du territoire dont il a la charge. Alors Luther avait tout simplement repris l'ordre de la messe latine, il l'avait traduit en allemand. La tradition réformée s'est davantage conformée aux situations locales en reprenant moins les termes de la messe allemande, mais les synodes ont évidemment veillé à structurer les liturgies. Et ceci s'accompagne d'une tâche catéchétique. Il faut aussi s'accorder sur un catéchisme qui sera tout simplement retenu pour l'enseignement dans les diverses paroisses qui constituent l'Église dont le synode a la responsabilité. Cette tâche est aujourd'hui nettement plus difficile parce que les catéchismes du XVIe siècle, on ne va pas vous les reprendre mot à mot. Et il y a de nouvelles formes catéchétiques qui sont nées. Mais les synodes s'efforcent généralement de montrer la conformité des nouveaux catéchismes avec les catéchismes originels de leur tradition. La troisième chose qui incombe aux synodes, c'est ce qu'on appelle la constitution ecclésiastique. Alors, on sait en règle générale, on a le mot le mot réformé de discipline, je trouve toujours dommage que ce mot ait été tellement galvaudé, alors qu'à l'époque, il s'agit tout simplement de la vie du disciple. Et il s'agit d'une charte qui vous permet de vivre, que vous signez à la fois comme pasteur et comme membre du synode, et que vous signez enfin comme pour qui vaut pour tout baptiser. On s'engage sur la base de cette charte, de cette constitution ecclésiastique, de ce qu'on appelle donc cette discipline, on s'engage dans la vie de la communauté. Et enfin, cette règle, cette constitution ecclésiastique comprend aussi une définition de la manière dont s'exerce l'autorité au sein de l'Église. Ça, c'est, on vous dira, voilà, là, il y a tant et tant de conseillers presbytéraux, voilà leurs tâches, etc. C'est la troisième fonction du synode. Et enfin, la quatrième, c'est tout simplement la gestion des affaires quotidiennes. Les points abordés vont de la gestion des finances aux modalités des élections, à la gestion des biens immobiliers, tout ce que vous voulez. Vous avez toute une direction d'église qui est ainsi conçue d'une manière très synodale. Et je voudrais, dans une troisième et dernière partie, essayer de vous donner un aperçu général. Il est aussi un peu schématique, mais vous devriez vous y retrouver, des deux modèles que vous trouvez en règle générale dans les traditions de la Réforme, dans la composition des synodes et la manière de travailler des synodes. Alors là, il faut que je précise que l'Église, dans ces traditions-là, ne se limite jamais à la communauté locale. L'Église est toujours supralocale, et moi, si je suis pasteur, j'en sais rien, de l'Église luthérienne à laquelle j'appartiens, je ne suis jamais pasteur d'une paroisse, mais je suis envoyé par le synode ou la direction de l'Église dans une paroisse, mais je demeure le pasteur de l'Église. Pareil pour un pasteur, on appelle ça le rôle des pasteurs réformés, ils sont pas pasteurs d'un lieu, ils sont pasteurs de l'ensemble de l'Église envoyé en un lieu. Et c'est ça le fonctionnement synodal, j'essaye de vous l'expliquer un peu davantage, à la différence de ce qu'on appelle les églises congrégationalistes, où en fait il n'y a pas de synode, et où chaque église locale est finalement son propre maître et a le dernier mot. Alors nous avons deux systèmes. Je commence par le système qui est plutôt celui de la famille réformée. C'est celui qui vaut depuis 1559, dans l'Église réformée de France, il y a eu des modifications, j'en suis très conscient, mais les grandes lignes demeurent les mêmes. Vous avez la paroisse locale qui délègue un ou deux délégués et son pasteur pour la représenter au synode régional. Le synode régional délègue de son côté un ou deux ou trois, pour voir, il y a des, ça va je crois jusqu'à sept, délégués laïcs plus autant de pasteurs au synode national. Et c'est le synode national, l'instance dernière, dont les décisions valent et s'imposent à l'ensemble de l'Église. Donc vous avez une paroisse, une délégation à un niveau régional, puis à un niveau national. Ça donne un excellent filtre, parce que c'est cet étagement de lieu de décision permet d'éviter qu'une position extrême dans une paroisse ne finisse par s'imposer. C'est le fonctionnement que vous retrouvez en très grande partie dans l'Église protestante unie de France. C'est le modèle le plus classique pour ce modèle presbytérien synodal, c'est l'Église d'Écosse. Mais ça vaut aussi pour les Pays-Bas. Et alors le synode national met en place un petit conseil qui est alors l'exécutif, généralement présidé par un pasteur ou une pasteur, un conseil synodal qui dirige l'Église et qui met en œuvre les décisions des synodes. Ce qui est intéressant, c'est que ce modèle d'Église, il y a un caractère collégial de l'exercice de l'autorité, et chaque paroisse est directement associée au processus décisionnel. Ça va du bas vers le haut, je viens de vous le dire, mais ça va aussi dans l'autre sens. Du moment que la décision est prise, ça va du haut vers le bas. Des niveaux successifs d'assemblées délibérantes. Les forces et les faiblesses de tout régime démocratique, on le sait. Ce que j'ai appris d'un des derniers présidents du conseil synodal de l'Église réformée de France, Marcel Manuel, avec lequel j'ai un jour travaillé cette question, il m'a expliqué qu'en fait, on ne pouvait pas changer la référence à la confession de foi s'il n'y avait pas une majorité de 2/3 au moins, sinon de 4/5, et que les décisions des synodes, les décisions ponctuelles, j'en sais rien, maintenant vous allez prendre position pour la crise énergétique, pour toutes les questions ô combien majeures dont va débattre le synode, ces choix synodaux ne valent pas pour l'ensemble de l'Église, mais ne valent que pour l'Assemblée qui se réunit ici aujourd'hui en ce jour. C'est son opinion, mais ça ne permet pas pour le moment, on ne peut pas en faire, c'est l'opinion de l'Église. Alors ça, je voudrais quand même, je trouve ça très important, il y a tout un ensemble de filtres, de valeurs, de textes. Vous trouvez ça dans un article de Marcel Manuel sur l'autorité des synodes que vous avez dans la revue d'histoire et de philosophie religieuse de 2014. Et enfin, la dernière chose, le modèle épiscopalien synodal, ça c'est le modèle typiquement luthérien. Alors nous avons aussi nos synodes, mais par contre, on a beaucoup, beaucoup plus de délégués laïcs. Souvent 2/3, voire davantage, les fonctions sont les mêmes, mais il y a toujours la possibilité du veto du responsable pasteur, en l'occurrence, dans ce cas, on l'appellera l'évêque. En France, on ne l'appelle pas évêque, ce sont mais en Allemagne, en Scandinavie, partout, ce sont des évêques. Vous avez une décision du synode et l'évêque peut mettre son veto. Et ainsi, vous êtes contraint de parvenir à un système, c'est pour ça qu'on l'appelle épiscopalien synodal, où les deux se rencontrent, se concertent pour essayer de parvenir à une opinion consensuelle. Alors il y a des situations où ça peut durer 2-3 ans avant qu'une décision du synode ne soit acceptée parce que tout simplement vous avez un veto de la part du monde, donc du ministère ordonné, pour le dire en des termes brefs. Ça vaut pas tout à fait pour l'Alsace, mais je vais pas rentrer dans ce détail parce que c'est vraiment une situation à part liée à des fonctionnements institutionnels encore liés au concordat. La seule remarque encore à ce propos, c'est ce système-là que vous avez dans le monde anglican, qui fonctionne exactement de la même manière, où vous avez trois houses, House of Laity, House of Clergy and House of Bishops. Et alors là, vous avez trois votes pour tout acte, et il faut que les trois, dans les trois assemblées, il faut que ce soit majoritaire, et s'il y a un des groupes qui dit non, la décision des synodes n'est pas acquise. Voilà, je conclue avec deux remarques concernant le mouvement œcuménique. Le défi le plus grand que je rencontre dans le modèle que je viens de vous exposer, donc ce modèle, que ce soit le modèle plus réformé presbytérien synodal ou le modèle plus luthérien épiscopalien synodal ou anglican, c'est que notre problème, c'est la catholicité. Ce qui fonctionne bien au niveau régional et national n'est pas encore possible au niveau international et mondial. Nos églises locales, nationales, tiennent à préserver leur totale autonomie. et tiennent à avoir le dernier mot. Aussi, elles se sont certes associées au niveau international, Conseil œcuménique des Églises, Fédération luthérienne mondiale et autres, mais ces instances n'ont pas un pouvoir de décision impliquant directement les Églises locales. Vous avez affaire, moi j'appelle ça, à un congrégationalisme national. Et on a beaucoup, beaucoup de peine à le dépasser. Ça arrive très rarement qu'on arrive à vraiment à prendre des décisions qui nous engagent par-delà notre Église nationale ou autre. Et puis la seconde remarque, ça concerne surtout nos amis catholiques et orthodoxes. Et l'enjeu est évidemment la place des laïcs de leur pouvoir face au pouvoir des ministres ordonnés. Et vous avez là la traduction d'ecclésiologie différente, on le sait, dans le mouvement œcuménique, nous le savons, c'est la compréhension du ministère, la différence entre le baptisé et le prêtre, entre le prêtre et l'évêque, etc. Ça demeure la pierre d'achoppement. Alors, on va pas régler un débat aussi difficile ce soir, évidemment que non, mais comme théologien de la réforme, moi je ne pose qu'une seule question, c'est toujours la même. Est-ce que ce modèle que je viens de vous exposer pourrait être considéré par le monde catholique et orthodoxe comme un modèle valable de vie d'église? C'est en fait ça ce qui est en jeu. On ne demande pas tous d'avoir les mêmes fonctionnements, mais est-ce que le fonctionnement que je viens de vous dire pourrait être, à vos yeux, une expression légitime de l'unique Église du Christ? Voilà, merci beaucoup.
C'était trop long. Hein.
Merci beaucoup, cher André, pour cette intervention. Merci en particulier pour certains déplacements, probablement, que tu as opérés au milieu de nous. Le premier, moi en tout cas, que je retiens, c'est non pas un déplacement, mais une insistance, et tu as pris le temps de commencer ainsi, non pas sur les enjeux théologiques d'emblée, mais vraiment sur le contexte historique. Et cela nous permet de sortir des caricatures, et donc c'est à entendre vraiment, je trouve, que de contextualiser nos questions, et aussi les thèmes de nos débats, comme celui de la synodalité. En tant que, au niveau des déplacements, j'en soulignerai quelques-uns seulement. Le premier, c'est, il peut être courant pour nous protestants, mais qu'on a réentendu sans doute autrement ce soir, c'est que le ministère est vraiment confié à toute la communauté et que tout autre ministère s'inscrit dans ce ministère global de l'Église. Aussi, cette manière dont tu as parlé du synode comme finalement ayant soin de la vie du disciple. Et c'est quelque chose que l'on oublie parfois, cette chose très simple, mais que le synode a à voir avec le discipula, d'où le mot discipline. Et enfin, ça rejoint aussi des grandes questions œcuméniques, c'est la manière dont l'autorité, du coup, s'exprime pour nous dans un synode protestant. Et bien sûr, nous aurons l'occasion d'y revenir au moment du débat et des questions, donc je vous propose de ne pas l'oublier trop vite. C'est à la fois une interpellation que tu adresses à l'intérieur du monde protestant à propos de la catholicité. Comment vivons-nous la catholicité? Et puis, ad extra, pour le monde catholique ou orthodoxe, cette place des laïcs qui est vécue de manière différente. Donc c'est quelque chose sur lequel nous pourrons peut-être débattre et revenir. Tu pourras en dire davantage. Sachant que tout cela est au service de l'expression, et je reprends ton expression finale, l'expression légitime de l'Église du Christ, de l'unique Église du Christ. Donc merci, cher André, pour ton intervention. Et je crois que nous avons finalement la joie d'être avec Yulia en ligne, il me semble, si techniquement ça tient toujours. Je laisse la parole en tout cas à Michel pour présenter Yulia, que nous allons, je l'espère, voir bientôt.
Bonsoir, est-ce que vous m'entendez?
Voilà, nous entendons très bien. Vous nous entendez?
Je vous entends très bien.
Très bien.
Très bien, merci.
Très bien. Voilà, bien, je suis très heureux de vous accueillir et de vous présenter à l'auditoire. Donc, Madame Yulia Knight-Vidovic, Je tiens vraiment, en mon propre et au nom d'Anne-Cathy Graber, à vous remercier très chaleureusement d'avoir accepté, pratiquement au pied levé, vous avez accepté, alors que vous êtes à Strasbourg, de modifier votre programme initial ce soir pour nous faire entendre une voix orthodoxe sur le thème de la synodalité. Je vous présente brièvement, si vous permettez. Vous êtes originaire de Serbie. Vous êtes titulaire d'un doctorat en théologie avec une thèse qui portait notamment sur la question de la synergie, la synergia, entre la grâce divine et la volonté humaine chez un père grec, Maxime le Confesseur. Vous êtes professeur à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Vous êtes spécialiste donc de patristique grecque, d'histoire des conciles œcuméniques, d'anthropologie chrétienne, mais aussi de bioéthique, c'est-à-dire la variété, la diversité des champs dans lesquels vous intervenez. Vous avez publié l'ouvrage « Synergie entre la grâce divine et la volonté de l'homme » aux éditions du CERF en 2018. Vous avez publié aussi de nombreux articles dans les différents champs que je mentionnais à l'instant. Vous avez des responsabilités importantes. Vous avez été représentante officielle de l'Église orthodoxe serbe dans le comité de direction de la Conférence des Églises européennes. Vous êtes aussi engagé dans le dialogue œcuménique, notamment depuis quelque temps comme membre du comité mixte de dialogue catholique orthodoxe en France. Nous avons la joie de travailler ensemble. J'ajoute que vous participez depuis 4 ans à notre séminaire de recherche du Centre Sèvres sur l'anthropologie chrétienne en perspective œcuménique. Et donc, je vous suis, nous vous sommes tous particulièrement reconnaissants d'avoir accepté de remplacer Michel Savroux et de prendre la parole sur ce thème de la synodalité vu du point de vue de l'Église orthodoxe. Merci beaucoup, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup Michel, merci beaucoup Anne-Cathy de m'avoir convié. Je regrette particulièrement de ne pas pouvoir être ce soir avec vous sur place. Donc je vous parle depuis Strasbourg et puis je n'aurais jamais osé prendre la parole si je n'étais pas engagée au sein de Pro-Oriente, en fait, le comité de pilotage de Pro-Oriente qui prépare le colloque qui se tiendra prochainement à Rome sur la synodalité où la question des églises orthodoxes est engagée dans le cadre des consultations de l'Église catholique romaine. Cela me permet aussi de voir tout le champ et la complexité de sujet, et je suis navrée de ne pas pouvoir les couvrir tous. En tout cas, j'ai pris le sujet tel qu'il m'a été proposé ce soir, à savoir comment est-ce que les églises orthodoxes conçoivent la synodalité et comment ce thème pourrait s'inscrire dans le dialogue œcuménique. J'aimerais bien commencer par dire que l'orthodoxie est souvent comprise, et ceci je dirais avec raison, comme étant une église conciliaire. Même si ces définitions sont admises par l'ensemble de fidèles, il n'est pour autant certain que tous comprennent ou connaissent la signification de ce terme. Et je vais m'expliquer. Si vous demandez à quelconque fidèle qui vient à l'église un dimanche matin pour la divine liturgie de vous dire ce que le terme synodalité désigne, il y a de fortes chances d'entendre la réponse suivante. Un synode est une institution vieillotte, détachée des gens ordinaires, une gouvernance s'occupant d'affaires administratives, préconisant les lois et la morale de l'Église, bref, quelque chose de détaché de la réalité du terrain. Parfois, une notion de collégialité est ajoutée au sens de synodalité, selon laquelle un synode est gouverné de manière collégiale, mais afin que son chef exerce son autorité d'une manière plus circonspecte. De cette manière, la signification de la synodalité dans l'esprit de la grande majorité des personnes semble être liée à des critères assez statiques, légalistes et formels. Plus un synode est légaliste, plus il semble être vrai, et plus les pères conciliaires sont conservateurs, faisant preuve d'autorité spirituelle, de charisme particulier, etc., plus cela incite les fidèles à les considérer comme des saints pères. La même remarque s'applique à l'inverse lorsqu'ils discernent une certaine faiblesse dans un concile, comme par exemple l'absence de certaines églises lors de certaines réunions d'assemblées, les déficiences procédurale ou la présence de non-orthodoxes parfois, etc., il existe une tendance à rayer ce synode de la liste de ce qu'on appelle les cinq conciles. Un des exemples assez récents et qui est encore en voie de réception est le Saint et Grand Concile de Crète qui a eu lieu en 2016. Donc l'Église catholique romaine est en pleine préparation du synode sur la synodalité. J'oserais avancer qu'avec un tel événement pour les églises orthodoxes serait tout aussi bénéfique. Mais donc la célébration récente du centenaire du Concile de Moscou de 1917-1918 a déjà donné quand même quelques matières à réfléchir à nouveau frais au sens de ce que nous entendons par la conciliarité. Mais également, ayant à l'esprit nos rapports et dialogues œcuméniques, nous nous apercevons qu'un événement majeur qui touche une église ne peut pas ne pas avoir des répercussions sur l'autre ou les autres églises chrétiennes. Des exemples sont nombreux. Enfin, on pourrait juste mentionner deux en guise d'illustration, celui du renouveau liturgique et celui du renouveau patristique du siècle dernier. Avant donc de nous lancer sur la manière dont la synodalité est comprise par l'Église orthodoxe, je tâcherai d'évacuer quelques représentations en disant ce que la synodalité n'est pas. Pour un développement plus large sur cette question, je vous renvoie à l'article qui a été publié en anglais de Mgr Maxime Vassilievitch, « La synodalité, une vision oubliée ou mal interprétée ». Donc si la synodalité consiste principalement à faire respecter des valeurs juridiques et morales, comme certains le prétendent, alors pourquoi le synode apostolique a-t-il introduit une innovation concernant la loi juive et approuvé la mission universelle de l'Église? Nous avons l'habitude d'appeler le synode apostolique un concile sui generis, mais le fait est qu'il a été le fondement de toutes les innovations futures dans la vie ecclésiale. Là, on pense au premier concile œcuménique, Nicée I, Chalcédoine, Constantinople I et II, etc. Les apôtres n'hésitaient pas à se réunir et, selon les actes 15-7, après qu'il y eut beaucoup de débats sur les questions les plus pressantes de leur temps, ils innovèrent. Il semblerait aussi que le lien essentiel entre la synodalité et la liturgie de l'Église est mis de côté. La séparation de ces deux aspects de l'ecclésiologie par la pratique assez moderne, consistant à tenir des conciles en dehors de la liturgie, a donné lieu à plusieurs distorsions de la synodalité qui contredisent les principes fondamentaux de l'ecclésiologie. Cependant, la liturgie elle-même n'a jamais été entièrement séparée de la conciliarité. À une époque où le terme synode était devenu un terme technique pour les conciles formels, les gens l'utilisaient pour désigner justement la liturgie. D'autre part, le mot « synodos » est utilisé par les saints-pères, comme par exemple un saint Jean Chrysostome, Cyril d'Alexandrie, Grégoire de Nazianze, Procluse de Constantinople, voire Maxime le Confesseur et les autres, lorsqu'ils abordaient la question christologique. Donc ils appelaient « synode » l'unité entre les deux natures du Christ. Par conséquent, l'histoire de la synodalité indique que le but des conciles de l'Église n'a jamais été une formulation de la foi en soi, mais plutôt la confirmation de la communion eucharistique, c'est-à-dire la kinonia. Que ce soit en tant que réconciliation avec l'autre, c'est-à-dire une personne qui est semblable au Christ, ou entre plusieurs autres communautés eucharistiques. Le thème principal des canons est donc le rétablissement de la pleine communion des excommuniés. La plupart des études sur la conciliarité présument qu'un synode doit être un succès, en termes donc de réalisation de l'unité et de victoire sur les hérésies. Pourtant, si nous identifions la synodalité avec le succès, avec les résultats finaux en accord verbal et pratique, alors nous devrons admettre que de nombreux conciles n'ont pas été aussi réussis. Nous devons comprendre ici qu'un débat périlleux du point de vue dogmatique ne s'arrête pas simplement à l'accord entre les mots et des formules, mais dans la réalité du mystère reconnu sacramentellement, liturgiquement dans l'image du Christ crucifié et ressuscité. À la liste des appréhensions erronées de la synodalité, il faudrait ajouter la tendance actuelle, largement répandue, à promouvoir une image idyllique des conciles. Certains sont prêts à parler de l'Église des conciles. Mais notre Église n'est pas seulement cela, elle est aussi une Église conciliaire, autrement dit une Église synodale. Et pourtant, tous les conciles ont toujours connu des moments imprévisibles, généralement pénibles, et les actes conciliaires fournissent tout un éventail de conduite épiscopale qui est assez large. Et donc le célèbre historien russe Bolotov en parle sobrement en disant « Le deuxième concile œcuménique de 381 à Constantinople répondait tout à fait à l'idéal. Ni l'empereur, ni ses représentants n'étaient présents. Il s'agissait, au sens propre du terme, d'un concile de hiérarques. Pourtant, même ici, les choses n'étaient pas complètement calmes et paisibles. Certaines réunions rassemblaient, aux yeux de Saint Grégoire le théologien, un concile de hérons. Inutile de dire qu'à tous les conciles, les délégués étaient exposés à une énorme pression, si bien psychologique que politique. Fondamentalement, chaque concile est resté imprévisible, malgré toutes les préparations en bonne et due forme, et même quand des scénarios pré-rédigés étaient posés. Un autre préjugé sur les conciles crée une difficulté, à savoir le rôle du peuple. Il implique l'idée qu'il y a une sorte de référendum ou de plébiscite lorsque nous parlons d'une réception qui a lieu dans le corps vivant de l'Église. Cependant, à la question « quel est le rôle du peuple ?», il faut répondre que le peuple s'exprime à travers son évêque, car l'évêque est toujours ordonné pour une Église locale donnée, afin d'en être la tête, en manifestant auprès de sa communauté le Christ comme tête de l'Église. Bien évidemment, nous ne pouvons pas ouvrir cette importante question ici, à savoir le rapport intra-ecclésial. Évêques, prêtres, diacres, laïcs, aussi bien des hommes que des femmes, ou autrement dit, la reconnaissance des charismes des uns et des autres, un vaste point qui demande à être éclairé au sein des églises orthodoxes elles-mêmes. Nous pouvons simplement renvoyer encore une fois au concile de Moscou, les slavophiles se référant à l'encyclique des patriarches orientaux de 848, insistait sur le fait que l'autorité magistérielle de l'Église se situe à l'intérieur et non au-dessus de la vie de communion du corps ecclésial. Là, il est écrit, et je cite, « Le dogme chrétien est confié à la garde de la totalité du peuple de l'Église, qui est le corps du Christ. Chez nous, aucune innovation n'a pu être introduite ni par les patriarches, ni par les conciles, car chez nous, le défenseur de la religion est le corps même de l'Église. C'est-à-dire le peuple lui-même qui veut que son dogme religieux reste éternellement immuable et conforme à celui de ses pères. Ceci nous permet de dire que le peuple n'est pas absent des conciles, car lorsque l'évêque n'exprime pas correctement son peuple, un nouveau concile est convoqué pour rectifier l'abus. C'est exactement la raison pour laquelle le concile de Florence, Ferrare, a été rejeté, non seulement par le peuple, mais surtout et en premier par le concile subséquent. Ainsi, la question est posée. Quelle est la véritable nature d'un synode? Si nous voulons dire que la synodalité n'est possible qu'au sein de l'Église, nous devons alors chercher le sens de la synodalité au-delà des critères que nous avons mentionnés précédemment, en d'autres termes, au-delà de la perfection légaliste et de la validité institutionnelle. Voyons donc comment notre Église orthodoxe perçoit la synodalité. Cependant, avant de le faire, je tiens à préciser quelques éléments sémantiques des termes que nous utilisons. En grec, on emploie un seul et même mot, donc synodos, i synodos, pour désigner tantôt l'institution collégiale d'évêques administrant autour donc d'un primat une province ecclésiastique ou une église autocéphale. Et donc là, quand on utilise ce terme, on parle alors de saint synode. Mais ce terme peut également signifier l'assemblée sémestrielle réunissant tous les évêques d'une église autocéphale. Par exemple, dans l'église qui est la mienne, l'église orthodoxe serbe, ces réunions des assemblées des évêques ont lieu deux fois par an, une fois par an, si on n'arrive pas pour des raisons diverses et variées, à organiser deux réunions qui demandent quand même une organisation beaucoup plus complexe. Et alors là, on parle de synode de la hiérarchie ou de l'assemblée des évêques. Et enfin, on entend une assemblée générale d'évêques convoquée de façon extraordinaire pour statuer sur un point doctrinal, moral ou disciplinaire. En français, à la suite de la tradition latine médiévale, on utilise deux termes synonymes à l'origine, donc le synode, du latin synodus, issu du grec, et concile, du latin concilium. En russe, on trouve deux mots presque synonymes, donc le mot d'origine grecque synode et le slave sobor, ou sabor, qui désigne un conseil, un synode, mais aussi une cathédrale. En fait, le sobor désignait une assemblée temporaire d'évêques, incluant même dans certains cas d'autres clercs et d'aïlaïques, donc réunion que l'on appelle concile en français et qui se réunit encore aujourd'hui au sein de l'Église orthodoxe russe. Donc du XVIe au XVIIIe siècle, l'Église russe était administrée par le patriarche de Moscou, donc qui était lui-même entouré d'un sobor. Mais après l'événement majeur que constitua l'abolition donc du patriarcat de Moscou et du sobor par le tsar Pierre le Grand en 1721, celui-ci a mis place donc ou a instauré un conseil clérical permanent, inféodé à l'état impérial et dirigé par un non-fonctionnaire civil pour administrer l'Église russe. Donc, et en ce sens-là, tous les laïcs ont été, ou autres personnes, donc, ont été mises dehors, donc ne faisaient pas partie de ce sobor. Donc, le terme synode fut employé pour désigner justement ce conseil. Et cela explique qu'au synode administratif de l'Empire russe, les auteurs slavophiles, donc du XIXe siècle, qui réagissaient par rapport à cela, et opposaient le sobor traditionnel, donc celui-ci qui était beaucoup plus large et qui comprenait aussi également donc les laïcs. Et cela explique aussi pourquoi, après leur exil en France, dans les années 1920, les théologiens orthodoxes russes, à la suite donc des slavophiles, ont préféré, pour désigner en français une qualité de la nature de l'Église, plutôt l'utilisation du terme « conciliarité » au terme synodalité, parce que ce dernier découlait donc de synode, un mot qui pour eux renvoyait à une réalité plutôt bureaucratique et hiérarchique qui en soi est opposée à l'unanimité et au partage spirituel qui était associé au sobor ecclésial. Même s'il est clair qu'en français le terme synode a une connotation plus institutionnelle et permanente, donc on parle alors là des synodes qui administrent les églises autocéphales, ou de synode romain convoqué par le pape, tandis que le mot concile renvoie à une assemblée ecclésiale temporaire, alors là on parle des conciles régionaux ou écuméniques, nous prenons donc acte d'une évolution et utilisons dans la suite de notre exposé le mot synodalité comme un simple synonyme de conciliarité. Donc les deux termes sont identiques. Maintenant j'aimerais bien revoir le terme de synode à travers son histoire qui en soi est très intéressante et qui nous permet de relever l'aspect ecclésial que ce terme contient en soi. Donc ce mot hellénique, synodos, qui signifiait avancer ensemble, donc sur une route, un chemin pour parvenir à l'assemblée après de nombreux périples. Et donc c'était aussi quelque chose qui a marqué les esprits de l'Église, puisque les participants au concile devaient quand même voyager assez longtemps, et donc la première chose qui faisait une fois réunis, c'était la célébration eucharistique. Donc, mais le terme en tant que tel, donc hellénique, était également populaire dans la littérature classique, et donc la base de données, si vous allez consulter le TLG, vous allez voir qu'il relève plus de 100 entrées tirées de la littérature déjà pré-chrétienne. Donc dans l'Antiquité classique, il apparaît fréquemment dans les œuvres d'auteurs tels que Euripide, Aristophane, Xénophon, Platon, Aristote, Épicure et d'autres. Et dans l'Antiquité également, l'Ecclésia, le Synodos, étaient des phénomènes publics similaires. Ainsi, le père Alexandre Schmemann et Hans Küng, chacun donc dans la perspective de sa propre tradition ecclésiale, ont exprimé une signification plus profonde du mot Synodos, qui se trouvait déjà chez saint Jean Chrysostome. Donc celui-ci, afin de souligner avec emphase ses croyances en la nature conciliaire de l'Église, a identifié l'Église en tant que telle avec le synode. Donc il disait « Ecclesia car synodo est in onoma ». L'Église est le nom de synode. Donc on retrouve ça dans ses commentaires sur les psaumes. Ainsi, dans l'Église ancienne, de la synodalité comme phénomène politique, nous sommes conduits à la synodalité comme phénomène théologique. Par conséquent, l'Église va au-delà de la signification politique que nous observons chez les anciens, les Hellènes et Romains, donc qui comprenaient en soi un forum, des représentants élus, une république, prise de décision de type de Sénat, etc. Et elle relie la notion de synode au jugement eucharistique, ce qui conduit finalement les saints-pères à relier le terme synode au Christ, donc lui-même, ou à la Sainte Trinité, c'est-à-dire à la théologie. Ceci implique aussi le rapport entre la synodalité et la primauté. Très tôt, dans l'Église ancienne, deux principes ecclésiologiques complémentaires et indissociables étaient considérés ensemble pour régir les rapports entre églises locales. La synodalité, la primauté, mais aussi la recherche de l'unanimité, d'un libre consensus des personnes à l'image même de la communion trinitaire. Par conséquent, pour l'Église, la synodalité est liée au Christ et au Saint-Esprit et non à une quelconque procédure démocratique comme dans l'ancien monde gréco-romain. Elle devient un événement, donc une célébration en fait, chez les pères de l'Église, et elle est liée à la Pentecôte. Donc, et là, je peux vous renvoyer à l'iconographie byzantine qui représente justement les conciles comme étant à l'image de la Pentecôte. Pour la foi chrétienne, la synodalité n'est donc pas centrée sur l'homme, mais sur le Christ, et ne dépend pas des réalisations juridiques d'une institution aussi grande soit-elle, mais de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'amour de Dieu le Père et de la communion de l'Esprit-Saint, comme l'affirmaient lors des assemblées synodales les pères de l'Église. C'est pour cette raison que le concile est nommé Agia Synodos, le Saint Concile, non pas en raison de ses mérites, mais parce qu'il est lié au Dieu très saint. Pour l'Église, la synodalité n'est pas l'affaire de l'adoption des affirmations individuelles d'une seule personne, aussi sainte soit-elle durant sa vie. Elle a trait à la célébration conciliaire de l'Église. L'identité synodale est entièrement perdue si elle se trouve isolée du corps ecclésial, car sa condition ontologique est justement cette relation ecclésiale. Il convient de noter que dans le cas de nombreux conciles œcuméniques, aucun des évêques n'a été invité personnellement, car tous ont été invités par l'intermédiaire de leur métropolitain ou de leur exarque régionaux. D'autre part, aucun des conciles œcuméniques n'avait le droit de négliger les épîtres des cinq patriarches, ni de violer le catalogue de thèmes annoncés. Historiquement développé par Justinien, donc la pentarchie correspond au paradigme d'une église plurielle organisée sur le plan universel autour de cinq grands patriarcats, donc à l'image des cinq sens, chaque patriarcat s'administrant de manière indépendante et sans l'existence d'un synode des patriarches. On témoignait des liens de réciprocité, de reconnaissance et de fraternité entre les cinq patriarches, s'exprimant dans la liturgie, donc de par les diptyques, les correspondances en voie de légat, voire décisions communes lors de conciles généraux. Ceci nous rapproche du point suivant qui insiste sur le fait qu'un vrai concile est celui qui ne cherche pas une auto-vérification de type automatique de quelque manière que ce soit, mais une réception par les églises. La synodalité conciliarité donc implique une participation et une communion entre les églises. Lorsqu'un concile cherche sa propre vérité en lui-même, il perd son œcuménicité, et là on a l'exemple de Brigonnage d'Éphèse de 449, car à long terme, l'avenir va décider du passé et va déterminer sa perception de ce passé. Donc la réception des conciles est fondamentale quant à son autorité. Toute conciliarité qui s'appuie sur sa propre légalité, donc ses vertus propres, ses qualités, ses procédures, etc., est erronée et n'a rien à voir avec la synodalité de l'Église. De ces observations, il devient évident que la source par excellence de la synodalité se trouve dans la divine Eucharistie. Et ce point mérite encore une fois d'être développé. L'Eucharistie transmet le testament de la foi, tandis que la synodalité le préserve de déviation en offrant un cadre herméneutique correct. Ainsi, nous pouvons lire dans la lettre envoyée par l'empereur Constantin Irène au très saint et très béni Adrien, pape de Rome. C'est pourquoi, par la volonté et la permission de Dieu, donc je cite, nous vous avons fait réunir, vous, ces très saints prêtres, vous qui avez l'habitude de dispenser son témoignage dans le sacrifice non sanglant, c'est-à-dire l'Eucharistie, afin que votre décision soit conforme aux définitions des précédents conciles qui ont décrété avec justesse et que la splendeur de l'Esprit vous illumine en toutes choses. C'est ainsi que l'on interprète donc la double fin des conciles œcuméniques. Déjà l'acceptation panégyrique de ceux qui croient correctement au Christ, ceux qui s'affirment dans l'unité eucharistique, et le retranchement du corps de l'Église de tous ceux qui s'écartent de la foi, donc qui sont sanctionnés par l'excommunication eucharistique. Tous les conciles de l'Église, aussi bien épiscopaux que locaux et œcuméniques, n'étaient jamais au-dessus ni contre, mais toujours dans l'Église, dépendant toujours de la réception ecclésiale de ces décisions par l'ensemble du corps ecclésial. L'Église orthodoxe actuelle, comme union de 14 églises autocéphales, demeure fidèle à ce paradigme, si ce n'est que les autocéphalies ont pris pratiquement un caractère souvent plus national que territorial. Or, ceci soulève un autre sujet. Considérant que de l'orthodoxie d'aujourd'hui, où la négation des institutions est très répandue, ce qui relève peut-être d'un phénomène civilisationnel, il est nécessaire de démontrer le caractère constitutionnel de l'Église. Les pères du Saint Grand Concile de Crète l'ont compris et la proposition qu'ils ont trouvée est un prolongement logique et profond de ces discussions. Ce concile a clairement souligné la préservation de la vraie foi orthodoxe n'est assurée que par le système des conciles, qui a toujours été dans l'Église considéré comme étant un juge compétent et final pour les questions concernant la foi. Et ceci a été fondé sur le canon 6 du deuxième concile œcuménique. Donc, contrairement à Saint Cyprien de Carthage du IIIe siècle ou à Saint Basile le Grand du IVe et à bien d'autres pères de l'Église qui ont toujours passé leur croyance au crible des conciles, divers charismatiques d'aujourd'hui prétendent savoir déjà détenir la vérité en eux. Il n'est pas exagéré de dire qu'aucun des conciles n'a compris que sa tâche était celle d'un théologien systématique qui systématise la foi. Au contraire, la fonction de l'institution du concile dans l'Église était et reste une communion, dans la foi en l'Eucharistie. Ainsi, il devrait exister un transfert et une application des dogmes à l'époque contemporaine, car les dogmes ont une vie et en tout cas ne se comprennent pas au sein des Églises orthodoxes dans le cadre d'un dogmatisme, mais comme quelque chose qui permet l'existence, la plénitude de la vie en Christ. Pardon. Chaque époque et Pardon. Chaque génération est appelée à vivre des dogmes à sa manière, sans introduire de nouveaux dogmes.
Pardon, Julia, oui, ce serait possible de terminer assez vite maintenant, parce qu'il y a une troisième intervention encore. Si vous,
d'accord.
Est-ce possible peut-être de conclure, si vous pouvez?
De conclure, oui, d'accord. Merci beaucoup. J'approche de la fin. Donc, depuis les premiers siècles de l'Église, les évêques orthodoxes des extrémités du monde connu venaient donc au Saint et Grand Concile en tant que porteurs du charisme, de la transfiguration cosmique du monde et non en tant que délégués d'une série d'églises ethniques. Ils venaient en tant que hiérarques des évêques conciliaires, donc catholiques, qui sont identifiés à l'Église une sainte, catholique et apostolique. Et je dis la fin, donc le synode est la communio ecclesiarum par excellence, donc la communion des églises. Il est le zénith de la conciliarité, non seulement parce qu'il offre aux églises l'union la plus visible et la plus tangible, autrement dit l'unité eucharistique et doctrinale dans le Christ et le Saint-Esprit, mais aussi parce qu'il constitue la représentation de la Pentecôte. Et c'est à cela qu'aspirait l'enseignement des pères, c'est-à-dire la vérification conciliaire de leur théologie. Ce point est oublié, négligé par de nombreux théologiens contemporains, même donc les orthodoxes, qui surtout de nos jours ont tendance à associer la synodalité à des déclarations idéologiques. Un concile en tant que fait, critère et événement de l'Église est l'occasion pour tous de rafraîchir et d'actualiser l'expérience charismatique et dogmatique de l'Église dans la culture moderne où la question existentielle de l'homme et de femme en tant que personne humaine concrète et réelle et de la société est posée de manière stridente, la contribution de l'Église orthodoxe, qui se veut être l'Église des conciles, peut être grande. Donc une Église qui agit de manière conciliaire a affaire à des personnes humaines porteuses de l'image de Dieu en eux, et non à un ou des mouvements idéologiques. La nouvelle ère conciliaire nous permet de prendre des mesures concrètes pour accroître la voix des Églises locales dans le témoignage et la gouvernance de l'Église universelle. Et là encore, une fois la corrélation entre primauté et synodalité est constitutive de l'ère ecclésiale en vertu même de son fondement eucharistique et trinitaire. Et donc pour conclure, nous pouvons nous référer à ce passage si connu du père Boris Bobrovskoï qui est tiré de son livre « Le mystère de l'Église ». La conciliarité se révèle comme coextensive au mystère à l'être même de l'Église qui fait de l'Église une Église en concile permanent à l'image du Conseil éternel de la Sainte Trinité. Je vous remercie et je m'excuse si j'ai dépassé le temps.
Voilà. Un très grand merci, Julia, pour votre intervention. Il nous a vraiment permis de mieux saisir, au fond, la voie propre de l'Église orthodoxe. Vous avez notamment mis en valeur le lien de la synodalité à la liturgie, mais vous avez surtout, on a retenu cela notamment, votre insistance sur le fait que la synodalité est centrée sur le Christ, qu'elle est centrée, vous avez insisté sur le lien au Dieu très saint. Et je crois que c'est effectivement essentiel pour nous d'avoir entendu cela à la faveur de votre intervention. Aussi ce que vous avez dit sur la synodalité comme, au fond, engageant la célébration de l'Église. Merci beaucoup pour tous ces thèmes. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir d'une façon ou d'une autre. Pour le moment, je voudrais introduire le dernier exposé de cette soirée. Je suis très heureux de passer la parole au Père Étienne Grieux, membre de la Compagnie Jésus. Il est évidemment guère besoin de présenter celui qui est recteur du Centre Sèvres ces années-ci. Mais justement, cette lourde charge de recteur ne l'empêche pas de poursuivre enseignements et recherches dans les champs de l'ecclésiologie et de la théologie pratique. En témoignent, entre autres, ses interventions nombreuses, les livres qu'il a publiés, « Né de Dieu »,« Itinéraire de chrétiens engagés » et ses lectures théologiques. Un lien si fort, « Quand l'amour de Dieu se fait diaconie ». L'un des axes de travail d'Étienne Grieux, c'est de réfléchir à partir de l'écoute de personnes en grande précarité, de revisiter à partir de là les grandes questions théologiques. Étienne Grieux est très attentif, beaucoup plus largement, à la vie de l'Église. Et il participe à de nombreuses rencontres dans des diocèses. Il est donc un témoin assez privilégié, je pense, de l'expérience synodale en France. Et comme il est en outre engagé dans le dialogue œcuménique, comme membre du groupe des Dombes, bien nous avons pensé qu'il était vraiment très précieux pour nous de l'entendre. Il va nous dire comment se pose la question de la catholicité du point de vue de l'Église catholique et quels enjeux, quelles interpellations en découlent pour les relations entre Églises. Un grand merci, Étienne, et je te laisse la parole.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Vous m'entendez bien? Ouais. Oui, ben, je vais essayer de faire ça. Mais... voilà. Tout d'abord, pour commencer, je crois que on peut dire que la question de la synodalité est particulièrement d'actualité dans l'Église catholique, du fait du synode sur la synodalité en cours. C'est un événement qui se déroule sur un peu plus de 2 ans, qui a commencé il y a 1 an, en septembre 2021, et la conclusion est prévue pour l'automne 2023. Et ça passe notamment par une large consultation et par une réflexion qui se décline à différentes échelles, à l'échelle des diocèses, des pays, des grandes régions et du monde entier. Voilà. Il y aura donc, c'est une fusée à plusieurs étages, on peut dire. Et le tout est ponctué par la rédaction de textes. Ça a commencé par un document préparatoire, et puis des collectes, ce qu'on appelle des collectes diocésaines, nationales, et puis des instrumentum laboris qui serviront pour les assemblées à l'échelle régionale et mondiale. Voilà. Mais ce qui est en jeu est plus large et plus profond que le travail que je viens de décrire. Car il s'agit, comme le dit le document préparatoire, et je le cite, il s'agit de redécouvrir le visage et la forme d'une église synodale, où chacun a quelque chose à apprendre. Le peuple fidèle, le collège épiscopal, l'évêque de Rome, chacun à l'écoute des autres et tous à l'écoute de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, pour savoir ce qu'il dit aux églises. Voilà, je trouve, une très belle manière de présenter la synodalité comme ce mouvement qui concerne tous les chrétiens et qui les invite aussi à apprendre les uns des autres. Le même texte donne une définition plus précise de la synodalité que je vous livre. La synodalité est bien plus que la célébration de rencontres ecclésiales et d'assemblées d'évêques ou qu'une question de simple organisation interne à l'Église. Elle désigne le modus vivendi et operandi spécifique de l'Église peuple de Dieu qui manifeste et réalise concrètement sa communion en cheminant ensemble, en se rassemblant en assemblée et par la participation active de tous ses membres à sa mission évangélisatrice. Ainsi s'imbrique ce qui constitue les piliers d'une Église synodale, communion, participation et mission. Voilà, c'était un autre extrait du document préparatoire. Alors beaucoup plus qu'un simple processus qui s'étale sur 2 ans, C'est donc la vie de l'Église, la manière de vivre en Église qui est concernée. Et je crois qu'on peut dire ici que c'est la culture ecclésiale catholique qui est mise en mouvement. Or, on sait qu'une culture ne se laisse pas facilement transformer, et ce synode sera sans doute, de ce fait, un lieu de tension. Il est trop tôt pour dire le fruit qu'il en sortira, mais en tout cas, l'enjeu est très important. Je crois que pour l'Église catholique, il faut mettre cela en perspective avec l'événement du Concile Vatican II, et voir ici sans doute, à travers ce synode, une étape majeure dans la réception de ce concile. Sans trop caricaturer, il faut reconnaître que l'Église catholique est passée par une phase de son histoire, on peut dire en gros de la fin du Moyen-Âge au XIXe siècle, où la dimension synodale de l'Église a été minorée. Un des signes en a été que, entre le Concile de Trente et le Concile Vatican I, on est resté 300 ans sans concile. Et la pratique des synodes diocésains était pratiquement tombée en désuétude. Alors cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'instance de concertation et de discernement collectif, mais c'est quand même un indicateur important que la faiblesse de cette vie synodale instituée. Voilà. Alors que nous est-il donc arrivé pour que nous ayons aujourd'hui à redécouvrir cette dimension de la synodalité? On a assisté, je crois qu'on peut dire ça, dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, à une sorte de séparation entre d'un côté les clercs, les hommes ordonnés, prêtres ou évêques, et les laïcs. Des facteurs culturels ont joué en ce sens, le fait que la culture latine, qui était celle de l'Église, a échappé à une large partie de la population, par exemple. De même que des facteurs politiques, et là c'était le souci de soustraire l'Église à l'influence des princes et des rois. Mais cela a débouché sur une perte de confiance dans les capacités des fidèles à apporter leur contribution pour le travail de discernement qui, dans les églises, est sans cesse à reprendre en fonction des questions qui se posent. Et l'insistance sur la dimension hiérarchique de l'Église a conduit à reporter cette responsabilité sur les seuls clercs, avec à leur tête la figure du pape qui a pris beaucoup d'importance. Donc ce point touche à la gouvernance de l'Église. Ici, donc d'une part il faut reconnaître cela, je crois, mais en même temps il faut apporter quelques nuances à ce que je viens de brosser à très grands traits. Car l'Église catholique est plus complexe qu'elle n'y paraît. Et l'on peut remarquer dans le domaine de la vie religieuse, par exemple, des formes de gouvernance intéressantes, qui parfois même ont pu inspirer le droit constitutionnel. Et puis, l'Église, c'est aussi beaucoup de confréries, d'associations, d'initiatives dans le domaine notamment de la charité, et il y a sans doute ici énormément de manières différentes d'organiser les choses et de prendre des décisions. Et il ne faut pas oublier que tous ces pans de la vie de l'Église existent et que l'Église c'est aussi cela, et que dans ces différents secteurs, il y a de la synodalité. Voilà. Et cela est valable aussi pour aujourd'hui. Je crois que quand on réfléchit sur l'Église synodale, il ne faut pas faire équivaloir l'Église à sa figure paroissiale et diocésaine. Voilà. Bon, mais cela dit, il est vrai que dans l'ensemble, nous avons, au fil des siècles, beaucoup perdu en capacité d'écoute de l'ensemble du peuple de Dieu et du discernement en commun. Voilà. D'où la nécessité de ce synode. Au premier facteur invoqué d'ordre culturel ou politique pour expliquer la perte du sens de la synodalité dans l'Église, il faut, je crois, ajouter des éléments d'ordre théologique. À partir du Moyen-Âge, nous en sommes venus à penser de plus en plus le salut, et donc la vie chrétienne, à partir d'un point de vue individuel. Le salut est d'abord l'affaire de chaque personne, de sa relation à Dieu. Et du coup, il est plus difficile de faire vivre une Église synodale où chacun a conscience qu'il a besoin des autres, quand l'itinéraire vers Dieu est pensé avant tout comme une affaire personnelle. Dans le même temps, et c'est sans doute lié à cela, l'Esprit-Saint a tendance à être relégué dans l'ombre, dans la prédication et dans la conscience ecclésiale. Et l'Église est appréhendée du coup beaucoup à partir de sa dimension juridique et beaucoup moins comme fraternité et communion. Voilà donc des facteurs théologiques qui expliquent aussi cette perte du sens de la synodalité. Alors le Concile Vatican II remet en valeur la dimension plus que personnelle de la vie chrétienne, notamment dans le chapitre 2 de Lumen Gentium, la constitution dogmatique sur l'Église, lorsqu'il met en avant le vocabulaire de peuple de Dieu pour désigner l'Église, lorsqu'il souligne l'importance du sacerdoce commun des fidèles, et lorsqu'il fait crédit aux fidèles, et il précise des évêques jusqu'au dernier des fidèles laïcs, donc il leur fait crédit du sensus fidei, c'est-à-dire d'un sens de la foi, on pourrait dire d'un flair de la foi, qui permet de reconnaître ce qui vient de Dieu et d'y consentir. Autrement dit, c'est un sens du discernement. Avant cela, avant le Concile Vatican II, beaucoup de travaux de théologiens avaient, au XXe siècle, redécouvert l'importance de la notion de corps pour penser l'Église, ce qui mettait sur la voie de retrouver le lien entre la personne du Christ, la dimension personnelle de la foi, pour chaque croyant donc, mais aussi sa dimension collective, l'Église, la communion des saints, comme corps, et la célébration des sacrements, avec notamment l'Eucharistie, dans une place tout à fait centrale. Il y a donc, on pourrait dire, des outils théologiques pour penser une Église synodale, où les relations, les liens entre les croyants et vis-à-vis de tous leurs frères et sœurs, participent du tissage du corps du Christ, et où toute la création sera réconciliée. Voilà. Depuis le Concile Vatican II, des pas importants ont été effectués dans le sens d'une Église plus synodale. Les conférences épiscopales ont été créées qui permettent un travail de réflexion et de discernement à l'échelle d'un pays. Elles concernent avant tout, c'est vrai, les évêques. Mais il est intéressant qu'en France, depuis peu, des laïcs soient aussi associés à la réflexion. De même, le Concile a rouvert la possibilité de conciles nationaux avec la participation de laïcs. Il y en a eu quelques-uns. C'est pas une forme qui a connu un grand succès, mais il y en a quand même eu quelques-uns aux Philippines, au Venezuela, en République dominicaine, dans d'autres pays aussi, et puis des formes apparentées, comme par exemple le synode allemand de 1971 à 75, qui était un grand événement pour l'Église d'Allemagne. Mais ce qui a été peut-être le plus marquant pour l'Église, c'est la forme de l'Assemblée générale des évêques d'Amérique latine, qui ont pris des décisions importantes, qui ont engagé ensuite, qui ont eu un retentissement dans toute l'Église, à travers les assemblées de Medellín en 68, de Puebla en 79 et d'Aparecida plus récemment. Voilà. Ici, on est à l'échelle d'une grande région, c'est tout le sous-continent d'Amérique latine. Mais c'est peut-être surtout la forme des synodes diocésains qui a connu une belle efflorescence après le Concile, surtout après la promulgation du Code de droit canonique de 83, qui a notamment reconnu et permis la participation des laïcs comme membres à part entière des synodes. Et à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup de synodes qui ont été célébrés dans l'Église, notamment en France. Il y a eu, d'après le décompte que fait Arnaud Join-Lambert, 786 synodes, et il faisait ce décompte en 2011, donc depuis il y en a eu d'autres encore. C'est un chiffre à mettre en regard avec les 3000 diocèses que compte l'Église catholique dans le monde. Donc ça fait, on pourrait dire, un quart peut-être des diocèses qui sont concernés. En tout cas, on a été souvent surpris par l'ampleur de la participation des fidèles à ces synodes. En général, il comporte une phase de consultation, et c'est là que des fois il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui ont pu s'exprimer, puis des travaux en commission, enfin ça donne lieu à une assemblée délibérative, et puis une célébration, un moment festif et liturgique au moment de la promulgation des décrets. Voilà, les limites de ce genre d'événement, c'est que les synodes ne peuvent s'exprimer que sur des thèmes qui relèvent de la compétence de l'Église locale. Et leurs décisions porteront donc essentiellement sur des orientations pastorales pour les diocèses, mais elles ne peuvent concerner la discipline de l'Église. Voilà. Alors souvent, c'est l'occasion de frustration, ça, dans les synodes diocésains. À noter enfin la forme nouvelle des synodes des évêques qui se réunissent périodiquement, le plus souvent à Rome, dans le but d'exercer un discernement sur une question importante pour l'Église. Alors je vous rappelle les thèmes des derniers synodes. Il y a eu le synode sur l'Amazonie, sur la pastorale des jeunes, sur la famille, sur la nouvelle évangélisation, sur la place de la parole de Dieu dans la vie de l'Église. Voilà. Et depuis le pontificat du pape François, il donne lieu en amont à un travail de consultation assez consistant. Voilà. Il me semble qu'on peut dire que ce qui se travaille en ce moment dans l'Église catholique autour de ce thème de la synodalité est le fruit de ces redécouvertes mises à jour lors du Concile Vatican II. Mais plus qu'une série de dispositifs à mettre en place, ce qui est en cause aujourd'hui, c'est bien la culture même de l'Église catholique. Allons-nous aller vers une conscience ecclésiale où chacun se sait attendu comme capable de participer au discernement qui, aux différentes échelles de la vie de l'Église, s'opère? C'est un changement profond par rapport à la manière de se penser catholique d'il y a 6 ou 7 décennies. Alors si l'on se demande, parce que c'est toujours précieux, si l'on se demande ce qui peut faire frein pour aller en ce sens vers une Église davantage synodale, je mentionnerai 3 éléments. Tout d'abord, nos représentations qui ont la vie dure et qui sont marquées par le cléricalisme, c'est-à-dire par une vision des prêtres et des évêques qui seraient beaucoup mieux équipés que les fidèles pour discerner les appels de Dieu, avec toutes les conséquences que cela a sur la manière de réfléchir en Église et d'accompagner les communautés chrétiennes. Mais il me semble qu'un deuxième danger menace aussi le processus synodal, qui consisterait à penser la synodalité en termes essentiellement politiques, comme un espace d'affrontement ou de compromis entre courants et sensibilités ecclésiales qui doivent arriver à s'accorder. Dans la culture catholique, je pense qu'une telle vision de la synodalité fait épouvantail, et pas que pour des mauvaises raisons. Une telle focalisation de la gouvernance sur la politique aura tendance à se centrer surtout sur la vie interne des Églises, au détriment de leur souffle missionnaire, et elle risque d'oublier la fécondation mutuelle entre lieux d'Église qui empêche que chaque chapelle se prenne pour la seule Église authentique. Et puis, dans ce genre d'opération, s'expriment en général ceux qui sont bien équipés pour le faire, tandis que les autres subissent cela. C'est une forme de domination aussi qui pourrait alors se profiler. Ici, il me semble que ce que nous percevons du synode de l'Église allemande en ce moment peut jouer en fait pour nous comme un contre-exemple. Alors je ne sais pas si je parle à partir seulement d'informations trop lacunaires que j'ai, mais il me semble que la part de la politique joue... Enfin, tient une place vraiment importante dans ce synode et que ça contribue à un certain malaise, j'ai l'impression, autour de cet événement. Voilà. C'est peut-être aussi cette méfiance vis-à-vis d'une synodalité qui serait très politique qui explique que les jeunes catholiques de profil plutôt classique se sont très peu mobilisés dans la phase de consultation du synode, par exemple dans notre pays. Je pense qu'ils craignent que cette insistance sur la synodalité n'apporte rien de bon à l'Église, si cela revient à instituer des lieux pour simplement gérer les différends et les conflits. Le document préparatoire du synode est conscient de cette difficulté, et il mentionne à ce propos, je le cite, « La consultation du peuple de Dieu n'entraîne pas que l'on se comporte à l'intérieur de l'Église selon des dynamiques propres à la démocratie, basées sur le principe de la majorité. » Car à la base de la participation à tout processus synodal se trouve la passion partagée pour la mission commune de l'évangélisation et non pas la représentation d'intérêts en conflit. Alors ici, j'aurais une question à poser aux frères des autres églises. Comment vivez-vous la dimension politique de la synodalité? Parce qu'il faut reconnaître en même temps que dès l'instant qu'il y a synodalité, il y a forcément une dimension politique qui rentre en jeu. Mais pour moi, la question, c'est comment faire pour que ce ne soit pas elle qui donne le « là », de sorte que la gouvernance de l'Église serait ramenée, finalement, à des jeux d'équilibre, voire même des rapports de force, entre tendances qui s'affrontent et essayent de faire des compromis. Voilà. Troisième point qui peut entraîner une critique de la notion même de synodalité, c'est la crainte qu'on aille vers une vision de l'Église pensée de part en part comme communion, au détriment de sa dimension hiérarchique. Or, dans la compréhension théologique qu'on peut en avoir, cette dimension hiérarchique intervient non pas comme un style de gouvernement autoritaire et descendant, mais comme une manière de signifier que l'Église se reçoit d'un autre, qu'elle se reçoit de l'appel de Dieu. Et les ministres ordonnés sont là pour rendre sensible cet appel, pour le symboliser, pour le signifier. Ça ne veut pas dire qu'ils soient identifiés avec cet appel, même s'il faut reconnaître qu'il y a un risque toujours de les confondre. Voilà. Mais à partir de là, j'aurais envie de poser une autre question, une deuxième question aux autres églises. Comment faites-vous de votre côté pour combiner cette dimension horizontale de la communion avec la symbolique verticale d'une communauté qui se reçoit d'un autre que d'elle-même? Voilà. Dernier point. Il me semble que toutes les églises, sur cette question de la synodalité, ont un rendez-vous qui pourrait les aider grandement à retrouver les chemins d'une plus grande communion. C'est le rendez-vous avec ceux qui, dans nos sociétés, n'ont pas accès à la parole, ceux dont on n'entend jamais la vie, ceux qui n'intéressent pas, ceux qui ne comptent pas. Ce sont tous ceux qui sont considérés comme étant guère pertinents pour participer à tout ce que nous sommes en train d'échafauder. Ce sont les personnes en grande précarité, les personnes marquées par le handicap, les personnes en souffrance psychique, les tout-petits, les enfants, les personnes très âgées qui sont sans force, ce sont aussi les étrangers, tous ceux qui ne maîtrisent pas les codes que nous manions habituellement. Une église peut-elle se prétendre synodale dans l'oubli de ces personnes? Et ne faisons-nous pas preuve de beaucoup de légèreté si nous pensons qu'elles n'ont rien à dire, rien d'intéressant à dire pour nos églises? Une église synodale, du coup, c'est une église, à mon sens, qui pense d'abord à ceux qu'on n'entend jamais et qui se met en état de marche pour que ceux-ci, précisément, puissent être entendus. Et cela demande en fait beaucoup d'énergie et cela pourrait vraiment révolutionner nos manières de vivre de nos communautés chrétiennes. Quand nous prenons au sérieux ces rendez-vous, nous découvrons que le chemin fait avec ces personnes conduit presque toujours à un rappel à l'essentiel. À leur côté, toutes nos petites ou grandes disputes sont relativisées. Car il y a là des êtres dont l'existence même ne tient parfois qu'à un fil. Et cela nous place devant une urgence, celle de la vie ou de la mort, du choix de la vie ou de l'abandon aux portes de la mort. C'est une urgence, vous en conviendrez, je crois, qui a une coloration pascale. Et il me semble qu'il y a ici pour les églises un chemin pour être ensemble reconduites vers l'essentiel. Le Christ qui nous donne rendez-vous depuis la Pâque de ceux qui ne comptent pas. Cette Pâque qu'il a fait sienne, lui. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.
Oh, merci beaucoup, Étienne. Merci de nous avoir montré comment, après des siècles, la dimension synodale a été minorée. Il y a eu vraiment une remise en valeur de cette dimension, surtout dans la mouvance de Vatican II, et depuis Vatican II. Et merci de nous avoir aussi si bien montré comment ce qui est en jeu, c'est rien moins qu'un changement de culture ecclésiale. Et tu as très bien montré les difficultés aussi, les résistances que cela provoque. Mais néanmoins, enfin, l'enjeu est de taille et merci beaucoup de nous avoir aidé à réfléchir sur cette question. Je redonne la parole à Anne-Cathy qui va animer le temps d'échange jusqu'à 21h30.
Alors, je vous rappelle la question que nous nous posions au début de cette soirée. Peut-on penser la synodalité sans la voix de nos différentes églises? Donc je propose qu'on vive maintenant ce temps de questions, réponses, ce temps de débat en ayant conscience de cette question initiale. Et tout à l'heure, Étienne Grieux a souligné l'importance d'apprendre les uns des autres dans un concile, dans un synode. Donc je propose que nous retenions aussi ces trois voix, nous essayons d'apprendre les uns des autres à partir des trois voix que nous avons entendues ce soir. Et il se trouve que nous avons déjà trois questions. Je vous propose en tout cas de poser trois questions et puis ensuite on laissera nos intervenants y répondre comme ils le souhaitent. Si votre question s'adresse plus à l'un ou à l'autre ou aux trois, n'hésitez pas à le dire. Et je propose que pendant que vous réfléchissez et puis que les micros se mettent en place, merci d'ailleurs, on réponde déjà ou vous réfléchissiez déjà aux questions, que ce soit Yulia, André ou Étienne, aux questions posées. Alors, il y en a deux posées par Étienne et une par André. Alors, Étienne Grieux a posé la question suivante. Comment vivez-vous la dimension politique de la synodalité? Comment faire pour qu'elle ne donne pas systématiquement le « là » Donc je propose que nos deux intervenants, Yulia Vidovitch et André Birmelet, puissent répondre à cette question. Puis ensuite, il y avait une deuxième question de la part d'Étienne Grieux. Comment faites-vous pour combiner la dimension verticale avec la dimension horizontale? Je propose aussi d'honorer cette deuxième question. Et je rappelle la question qui concluait le propos d'André Birmelet. Elle concernait le dialogue avec l'Église catholique et les Églises orthodoxes. L'enjeu est la présence et la place des laïcs, ainsi que l'articulation de leur pouvoir avec celle des ministres ordonnés. Cette question n'est que la traduction d'ecclésiologies différentes, et plus particulièrement la compréhension du ministre ordonné. Donc comment est-ce que les autres églises sont prêtes à voir ce qui se vit dans les églises de la Réforme comme un modèle valable, donc à reconnaître ces dernières comme étant des expressions légitimes de l'unique Église du Christ. Donc voilà, nous avons ces trois questions. Ça permet aussi à ceux qui sont en ligne de préparer leurs questions. S'ils veulent les écrire, il n'y a pas de problème qu'ils le fassent. Nous essaierons. On pourra sans doute pas honorer toutes les questions, mais n'hésitez pas à les écrire, bien sûr. Donc voilà, je vous laisse ces questions à tous les trois. Yulia, que nous retrouvons. André Birmelet, je ne sais pas par quelle question vous voulez commencer.
Allez, la dimension politique de la synodalité. C'est évidemment une question intéressante, mais mon expérience me montre que dans les églises elles-mêmes, on a certes des courants au sein de nos synodes, d'un courant plus libéral, un courant plus conservateur. Mais, mis à part quelques exceptions, je pense en particulier à l'église du Bade-Wurtemberg, où vous avez un très fort courant piétiste et un très fort courant libéral, et ils sont toujours à peu près à 50-50, ça c'est assez délicat, mais je ne connais pas beaucoup d'églises eues à ce problème. Ce qui par contre me frappe davantage, c'est la dimension politique que prend maintenant le débat sur la synodalité. Et là aussi, c'est... Bon, je suis très frappé parce que je suis ça de très près, le fameux chemin synodal en Allemagne, mais il est en train de provoquer une guerre interne dans le monde catholique. Et l'enjeu, c'est que les laïcs qui participent voudraient précisément toucher aux questions réservées. Les questions doctrinales, les questions éthiques, voilà, en disant pourquoi est-ce que nous n'aurions pas notre mot à dire. Alors là, il y a un vrai débat politique qui me semble d'ailleurs s'amplifier de plus en plus depuis quelques mois. Je pense que Rome a fait une énorme bêtise en envoyant une fin de non-recevoir il y a 2 mois qui n'était pas signée. On ne sait pas qui est l'auteur de cette fin de non-recevoir. Ça a évidemment provoqué un déferlement de critiques. Et puis on verra, c'est peut-être quand même la question de savoir est-ce que un synode peut décider ce que demande en fait le chemin synodal en Allemagne, de l'attitude à avoir face aux couples de même sexe, de l'attitude à avoir face à, disons, des prêtres, voire des évêques qu'on voudrait renvoyer et des choses de ce type-là. On est là dans des questions qui, politiquement, me semblent beaucoup plus dangereuses à l'heure actuelle, ou beaucoup plus remplies de dynamite que les questions des divers courants au sein d'une même église.
Yulia Vidovitch.
Oui, pour ce qui concerne les églises orthodoxes, c'est une question brûlante, très très difficile, et là on est véritablement à l'écoute des églises sœurs pour essayer d'avancer. En fait, ce qui me semble être important, et c'est un processus que les églises orthodoxes traversent, qui est un processus, je dirais, de l'ordre d'autocompréhension également historique, car il faut savoir que je n'ai touché un petit peu à cette question des églises autocéphales, mais également nationales, où le rapport État-Église est très périlleux. Là, je vois que après, enfin, si on contextualise historiquement l'ensemble des églises orthodoxes après donc la période byzantine, il y a l'Empire ottoman qui, dans la grande partie des églises, finalise par l'instauration de périodes communistes, où l'impact politique a demeuré et qui persiste enfin dans de nombreuses églises aussi bien territoriale que nationale, là, il va falloir aussi ouvrir ce champ de réflexion, comment est-ce qu'on les comprend. Donc le rapport aux politiques au sein de l'Église impacte profondément les Églises. Donc on a aussi la guerre actuelle en Ukraine, et puis qu'on peut le relire par le conflit lui-même, mais qu'on peut également relire par le rapport à la primauté au sein des Églises, qui est aussi une question hautement politique, donc pas simplement ecclésiale. Et là, c'est un véritable besoin de relire l'histoire, de clarifier les termes, de clarifier aussi la façon dont les Églises orthodoxes se pensent au niveau territorial, au niveau national, et également en dehors de ces contextes précis dans les diasporas, qui est aussi une réalité des Églises qui canoniquement n'est pas correcte, mais qui existe, qui perdure et qui aussi impacte le rapport aux politiques.
Merci, Julia. La deuxième question, comment faites-vous pour combiner la dimension verticale avec la dimension horizontale?
Comme j'ai le microphone, c'est assez simple, c'est la crucifixion. Moi, je le vois comme ça, c'est être tout le temps sur la croix en essayant d'être à l'écoute de l'appel en haut et de voir toutes les difficultés qui existent sur le niveau horizontal, et en essayant de transfigurer, ou en tout cas rendre possible cet échange horizontal dans la visée verticale. Mais c'est très difficile.
Pour les synodes des églises de la Réforme, je crois qu'il faut d'abord souligner l'importance de la vie spirituelle. Vous avez toujours un très grand travail d'aumônerie qui est fait, donc les cultes, les moments de prière, etc., jouent un très grand rôle. Et puis l'autre chose, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, nos synodes ont une très forte dimension démocratique, mais ce ne sont pas simplement des démocraties. Ce n'est pas la démocratie une majorité à elle seule ne peut pas nécessairement remporter une décision. Et puis pour cela, il y a les contre-pouvoirs. Et les contre-pouvoirs, là où vous avez plusieurs niveaux d'assemblée qui se corrigent les unes les autres, mais dans le monde donc plus épiscopalien synodal, vous avez le droit du clergé, entre guillemets, des ministres ordonnés, et en particulier de leurs représentants, de dire, écoutez, là, on peut pas. Et alors, ça provoquera un moment de discernement. Là, je me souviens d'une situation dans l'église du Danemark. Ça aura duré presque 5 ans avant qu'on puisse s'accorder. Et la question restait en suspens avant qu'on trouve une solution. À l'époque, c'était il y a 50 ans, la problématique des couples de même sexe. Est-ce que l'Église peut procéder à des bénédictions ou non? Et puis là, à l'époque, donc les évêques danois ont dit nous nous opposons pour le moment. Et c'est pas simple du tout pour un évêque de dire la décision du synode, je la refuse. Ça, il doit y avoir des arguments solides, et puis on rentre dans un processus de discernement. Alors, et là aussi, je crois que c'est évident que le moment de prière, d'invocation de l'Esprit-Saint, joue un rôle absolument déterminant. Et c'est pas, on n'est pas dans des assemblées qui sont tout simplement des rencontres de personnes qui n'auraient pas elles-mêmes cette dimension de verticalité qui pour elles importe.
Alors une troisième question, donc nos intervenants avaient bien pensé à se poser des questions les uns aux autres, donc merci. Celle d'André Birmelet, qui l'adresse plutôt, je propose à Étienne Grieux d'abord, et puis ensuite Julia si elle veut bien, donc à propos de modèle de la Réforme comme un modèle valable.
Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce que vous nous avez présenté, c'est que, en fait, la fonction de l'épiscope est tenue par une assemblée. Voilà. Hein. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Et il me semble que ça peut nous aider à réfléchir aussi, côté catholique, au gouvernement de l'Église dans les diocèses, par exemple. Parce que si l'on prend la fonction de l'évêque comme une sorte de monarchie, Je crois que là, on est à côté, enfin, on passe vraiment à côté de cet appel à une église synodale. Et du coup, ça invite à donner de l'importance, une vraie importance, à cette dimension d'un discernement à l'échelle d'une église locale, et pareil à l'échelle d'un pays, avec par exemple la conférence des évêques. Voilà. Maintenant, peut-être ce qui nous manquerait côté catholique, c'est la question de la primauté, c'est-à-dire le besoin de symboliser l'appel, la convocation de l'Église par une personne. Voilà. On est dans une structure un, quelques-uns, tous. On a besoin, je crois, du un aussi. Alors bon, bah ça c'est.
Mais je trouve ça très bien que vous ayez besoin du un. Mais la question est de savoir, est-ce que l'absence de ce un vaut séparation d'Église?
Ouais.
C'est ça la question.
Julia, je propose que, si tu veux bien, tu ne répondes pas à cette question. Non, je vais vous expliquer pourquoi.
Nous, on a plusieurs à vous exporter.
Non, c'est vraiment pour que aussi vous puissiez poser des questions. Donc, je propose qu'il y ait au moins deux questions de la salle maintenant.
Merci pour vos interventions, vos questions, vos réponses partielles ou partielles, je ne sais pas. Je vais parler en tant qu'un peu historien, je suis chartiste, élève de l'école des chartes, et je veux quand même rebondir un peu sur la question du politique et de la synodalité, puisque je vous lis notamment du Concile de Florence et de cette encyclique de 1848 qui redit la primauté du peuple et la réception sur finalement le corps épiscopal. Je voudrais quand même remarquer que cette théologie-là, elle s'est aussi construite parce qu'il y avait autour de cette théologie toute une histoire qui s'est construite, d'ailleurs maintenant fausse, déconstruite sur le Concile de Florence, qui représentait le peuple grec de Constantinople comme le gardien du dôme qui a su s'opposer à temps à ces évêques qui ont tous fauté, alors qu'on sait maintenant en tant qu'historien que c'est pas tellement le Concile œcuménique ou telle ou telle partie qui a décidé la doctrine de l'Église, c'est la bataille, le champ de bataille, c'est-à-dire le fait que Mehmet II ait pris la ville et que finalement la volonté d'union avec Rome était plus possible. Quoi qu'on y en pense. Mais sur le plan du politique, j'ai peut-être... D'avoir un agir conciliaire qui soit bien distinct de l'agir politique, enfin de l'agir partisan, sauf que dans certaines églises luthériennes ou issues de la réforme, on voit bien que on a réussi parfois à avoir cette distinction très forte, et l'Allemagne est un bon exemple, mais on voit aussi, notamment dans les églises du Danemark ou de Suède, et leur système de une influence. Un agir ecclésial qui soit vraiment formé par la théologie, par la pratique, pour éviter justement de tomber dans ce travers politique qu'on voit chez les Anglicans, avec l'influence du Labour ou des Tories sur les nominations et des évêques, qu'on voit parfois au Danemark ou en Suède, et qu'on voit même d'ailleurs dans le synode allemand diocésain, avec l'influence parfois des comités centraux catholiques, où il y a des hommes qui sont politiques, qui siègent dans ces communautés-là.
Merci. Est-ce qu'on peut avoir une autre question, si possible, et des questions brèves, comme ça permet qu'il y en ait d'autres. Merci. Oui, monsieur.
Bonsoir, merci pour l'immense qualité des interventions. Sans foi trinitaire, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de démocratie transparente, il n'y a pas de dynamisme économique. Nous avons quand même beaucoup d'incroyants, mais nous avons véritablement une responsabilité systémique, dont il faut prendre la mesure avec des risques, par exemple militaires. Bon, on n'a pas parlé du judaïsme, la loi est centrale, comme dans le scoutisme. On a peu parlé du conflit syrien en 2011-2016, où les Grecs orthodoxes, où la Russie nous a énormément aidés grâce à sa connaissance de la spiritualité chez telle ou telle dimension musulmane. Ma question, c'est sur la taille. Il y a la question universelle que vous avez évoquée, qui est organisée différemment, donc côté protestant, côté catholique. Bon, il y a le côté diocésain, église absolument centrale. Et dans le Val-de-Marne, nous avons eu le premier synode en 50 ans, en 2015-2016. Le père Hervé Legrand souhaiterait que ce soit obligatoire dans les diocèses, je crois, tous les 10 ans, ce qui paraît sensé. Et le fruit principal, d'ailleurs, dans le Val-de-Marne du synode, a été maintenant d'avoir des rencontres paroissiales annuelles. Et nous en avons une samedi, par exemple, dans l'une de ma paroisse, 80 paroisses. La question, c'est quel poids de la paroisse en dehors de l'universel, du niveau national, du niveau diocésain, c'est quand même dans la paroisse que s'expriment les besoins, les besoins en liturgie, éducatif, sociaux. Quel poids de la paroisse dans le dispositif, dans les différentes traditions? Merci.
Merci. Je laisse pour l'instant ceux qui le souhaitent répondre assez brièvement. Merci.
Oui, moi, je veux bien répondre à la question de la paroisse. Nous avons des conseillers presbytéraux dans chaque paroisse et c'est généralement un de ces conseillers presbytéraux qui est délégué au synode régional en même temps que le pasteur. Donc ça remonte d'échelon en échelon. Ce qui m'intéresse, c'est votre question sur Suède et Danemark. Vous prenez les deux églises où le synode était le parlement de l'État. Et ça a changé dans les deux pays, heureusement, dans les 30 dernières années. Alors là, il y avait effectivement un problème parce que, vu qu'à l'origine, les synodes, c'était les magistrats, donc très rapidement, c'était les députés, ces gens. Les deux églises il y a eu dans les deux pays séparation église-État dans les 30 dernières années, heureusement, parce que ça ne collait absolument plus à la réalité. Alors, je crois que pour le Danemark, c'est 1980 et, ça leur a permis, en tout cas, de signer alors ce qu'on appelle la concorde de Leuenberg, c'est-à-dire l'accord entre les églises au niveau européen, parce que tant que le Parlement avait le dernier mot, ce n'était pas possible d'entrer en communion avec d'autres églises européennes. Mais là, il faudrait qu'on rentre dans le détail. Je veux bien m'entretenir avec vous sur ce point.
Je vous dis tout de suite qu'il y aura après un temps un verre de l'amitié, donc vous avez encore l'occasion de parler avec tel ou tel. Donc il n'y a pas de problème, il y aura encore un petit moment tout à l'heure. Étienne Grieux veut répondre à une des deux questions peut-être.
Simplement, c'était pour dire à André que j'ai entendu sa question sur est-ce que c'est ça qui fait la séparation des églises, hein, la question de la primauté. Moi, je dirais que je suis sûr qu'il y a moyen de... disons, d'inventer, d'imaginer des formes de communion qui soient capables de reconnaître une vraie diversité dans la manière de faire vivre des églises. Voilà. Mais ça demande de travailler, ça demande de le vouloir d'abord, et ça demande de travailler pour imaginer des formes dans lesquelles les uns et les autres se reconnaissent vraiment sans qu'il leur soit fait violence, en aucun cas. Voilà.
Je suis vraiment désolée, c'est très frustrant, je sais, mais on va tenir les horaires pour des questions de fermeture de salle, on est vraiment obligés. Et aussi parce que nous aurons un temps, donc à la sortie, vous irez à la salle, ceux qui le veulent, peuvent se retrouver à ce qu'on appelle l'espace Jeannot, c'est tout au fond. Et là, il y aura l'occasion de se rencontrer, vous pouvez rencontrer aussi d'autres personnes ici qui peuvent répondre à des questions ou échanger. Mais je laisse pour l'instant la parole à Michel Fédou.
Bon, ce sera très bref. Trois petits mots de conclusion, plutôt d'ouverture à vrai dire. Le premier, c'est que il me semble que notre soirée finalement attire l'attention sur la responsabilité de tous les chrétiens, quelle que soit leur église, leur appartenance ecclésiale, confessionnelle, la responsabilité de tous les chrétiens pour contribuer au visage d'une église vraiment synodale. Mon deuxième mot de conclusion, c'est pour souligner, je pense que la soirée nous a aidé à en prendre davantage conscience, la fécondité des échanges entre catholiques, protestants, orthodoxes, anglicans, etc., sur le thème de la synodalité. Peut-être ne sommes-nous qu'au début de cela. Peut-être, et même sans doute, avons-nous avancé dans le partage de nos expériences en matière de synodalité et à nous enrichir mutuellement de ces diverses expériences. Enfin, troisième mot de conclusion ou d'ouverture, je pense que rien ne serait possible, aucune avancée en matière de synodalité bien comprise ne serait possible si l'on ne soulignait pas l'exigence d'une conversion spirituelle pour nous tous, pour chacune de nos églises. Cette conversion spirituelle est et restera nécessaire et ne sera jamais achevée,
pour que la synodalité en quelque sorte pénètre de plus en plus la chair de nos églises et pour qu'il nous soit possible de faire route davantage ensemble, synodos, hein, c'est le sens même étymologique, le sens du mot synode. Je crois que le terme de cette route est encore devant nous, peut-être loin devant nous, mais je dirais que le petit synode que nous avons tenu ce soir nous laisse entendre que le chemin continue et que nous espérons il permettra un jour d'arriver à une plus grande communion de nos diverses églises. Bien sûr, je ne veux pas terminer, mais c'est Anne-Cathy qui le fera peut-être. Nous le faisons en tout cas, tous les deux. Nous ne voulons pas terminer sans remercier à nouveau chaleureusement Julia Vidovic, qui vraiment a beaucoup de mérite d'avoir accepté au pied levé, je le redis, d'intervenir ce soir. André Birmelet et puis Étienne Rieu. Merci pour vos trois interventions et merci à vous tous. Et j'oubliais, merci à Isabelle, à ma gauche, là, qui a permis justement, du point de vue technique, d'avoir droit à l'intervention de Julia Vidovic. Et merci à tous d'être venus pour participer à cette soirée.
Et merci aussi à ceux qui étaient en ligne, et encore toutes nos excuses pour le démarrage qui a été complexe, mais merci de nous avoir suivis jusqu'au bout aussi.